L'Odyssée d'un voleur de pommes de Moïse Rosenbaumas, autobiographie d'un juif lituanien né en 1922, traduite du yiddish par la fille de l'auteur, est un témoignage sur la réalité foisonnante du monde juif d'Europe de l'Est avant 1945. C'est aussi un document sur l'armée rouge et le système stalinien vécu de l'intérieur. Le texte, écrit en yiddish, a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Isabelle a traduit de nombreux ouvrages du yiddish et encore tout récemment chez Kalman Levy, l'extraordinaire journal de Lai Broschmann.
Je repris ma route en direction de Moscou, ou plus exactement le long d'un axe qui passe entre Moscou et Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, vers Novgorod. Je traversais les villes le plus vite possible, craignant toujours les bombardements. J'étais déjà très loin de la maison et me sentais de plus en plus seul. Je ne mangeais pas à ma faim, ne dormais pas assez et n'étais pas propre. Je n'avais pas de savon et me lavais la plupart du temps dans les cours d'eau au bord desquels je passais en vélo. Je ne revis pas de savon durant de longues mois, jusqu'au moment où je fus incorporé dans l'armée. De Novgorod, j'arrivais à Rybinsk et de là à Kostroma, puis à Nijni Novgorod. J'avais parcouru une bien longue route. J'étais rompu de fatigue, épuisé et affamé. Je ne savais plus quel jour on était, ni depuis combien de temps j'étais sur les routes. Parti sans un sou en poche, je n'avais pas une chemise de rechange, ni de linge. Tout ce que je possédais était sur moi. Je n'avais pas de toit, mais décidé de m'arrêter et de rester un moment sur place. Aussi mon vélo était-il devenu un fardeau, car il me fallait le surveiller sans cesse, afin qu'on ne me le volât pas. Je décidai donc de le vendre, ce qui en revanche ne posait aucun problème. À cette époque, on pouvait tout vendre et tout acheter. Avec l'argent que je reçus, je pus enfin manger à ma faim pendant un certain temps. J'avais en effet vendu le vélo à un bon prix, mais le pain coûtait excessivement cher et les autres produits également. Ainsi, un oignon coûtait une fortune. Dans une situation de pénurie, un oignon devient un très grand luxe. Quand on ne mange pas suffisamment, les carences en vitamines ne tardent pas. Les dents se déchaussent et commencent à tomber. Je n'étais pas le seul dans cette situation, nous étions des milliers. Les gens arrivaient de toutes parts, des différents fronts sur lesquels la guerre faisait rage. Tout le monde fuyait dans la même direction, loin des combats. Des réfugiés dormaient dans les bâtiments publics et surtout dans les rues. Le pouvoir en place avait ouvert tous les lieux où il y avait des places disponibles. Je finis par rencontrer une connaissance, un jeune homme qui était d'une ville proche de Telts, nommée Plungé. Je me rendais assez souvent dans cette ville où j'avais une famille parente, des cousins de ma mère, les Alkonovitch. Ils avaient deux garçons et une fille qui étaient tous les trois des élèves du lycée lituanien. Les parents étaient des gens très accueillants et à chacune de mes visites, ils faisaient preuve d'une grande hospitalité et me recevaient à cœur ouvert comme un de leurs propres enfants. Il faut souligner, fait rarissime en Lituanie, que toute cette famille se trouva parmi les survivants de la Shoah. Les parents sont morts après la guerre. Un fils et une fille ont immigré en Israël avec leur famille. Un autre fils est resté à Plungé avec la sienne. Il est décédé aujourd'hui. Reste-t-il encore des Juifs à Plungé? Je connaissais le jeune homme pour être souvent venu avec l'équipe de football du Bétard de Telts jouer contre l'équipe Apoel, des travailleurs de Plungé. Il jouait en face de moi et exerçait la profession de forgeron, ce qui n'était pas du tout un métier juif. Mais Plungé était une petite ville située dans un environnement très rural qui avait une nombreuse population paysanne et c'était par conséquent un métier en or. Il fabriquait des fers à cheval dans son atelier, ferrait les chevaux, cerclait de fer les roues des charrettes, encore en bois à l'époque. Grand et fort, avec des mains solides et endurcies par son labeur physique, il était de 3 ans mon aîné. Lorsque je le rencontrais, ce fut pour moi, bien qu'il n'ait même pas été un camarade proche, comme si je retrouvais quelqu'un de ma propre famille. Tout ce long périple, sans personne à qui adresser une parole. J'avais été si solitaire qu'il m'arrivait comme un envoyé du ciel, et je pense qu'il en était de même pour lui. Nous sommes donc repartis de là ensemble, avec cette fois une besace sur l'épaule. Notre objectif était de faire le tour des kolkhozes des environs. En URSS, où les terres avaient été confisquées aux paysans, dont beaucoup avaient été déportés, le kolkhoz désignait une structure étatique de production qui avait la jouissance perpétuelle de la terre et la propriété collective des moyens de production. Tout le monde y travaillait ensemble et à la fin de l'année, chacun recevait sa part des produits avec un peu d'argent. En plus de la maison qu'elle habitait, chaque personne disposait d'un petit lopin de terre qu'elle cultivait pour ses propres besoins. Pourquoi sommes-nous partis dans les kolkhozes? Parce que nous savions qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre masculine et surtout de forgerons. Les hommes avaient été mobilisés dans l'armée et il ne restait plus dans les collectivités que les vieillards, les femmes et les enfants. Mon ami forgeait et moi je surveillais le feu, actionnais le soufflet et frappais avec le grand marteau sur l'enclume. En échange du travail que nous fournissions, les habitants nous donnaient à manger, un endroit où passer la nuit et quelques sous. Nous avons travaillé de la sorte et économisé le pain pour constituer une petite réserve. C'était un pain très noir avec pas mal de paille incorporée dans la farine. Nous pouvions le garder au moins 2 semaines, il devenait alors dur comme pierre, mais nous avions de bonnes dents. C'est ainsi que nous avons erré d'un kolkhoz à l'autre jusqu'au moment où nous sommes arrivés à Kazan.
Vom Weg steht der Bäum, steht ein Gebäude. Alle Vögel von dem Bäum fangen sich zu verleugen. Reiche Miesere, reiche Meiref und die Rest gehen dorem. Um den Bäum gelost allein, heif gefahren sturem. Such ich zu der Mammen her, sonst mir noch nicht sterben. Will ich Mame eins und zwei bald auf Vögel wären. Ich will sie jetzt an euch vom Bäum und will ihn verwegen. Über Winter mit der Dresd, mit der schönen Wiegen. La 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 la. Wenn die Mamme jetzt ihr Kind und sie fängt mit Tränen, fest holille ui vom Bäum mir verfroren wären. Sag ich Mamme, sie sah schon deine schöne Augen. Hey der Wurst und nieder Wind wär ich mir a Feugel. Sog die Mami, jetzig Kind, nehm um Gottes Willen, nehm dir mit a Schalico, sollst dich nicht verkehlen. Die Kaloschen tu dir an, es geht a schwerer Winter. Und die Kutsch mehr Ruckarob, weh ist mir und wenn mir. La 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 la. Und aus Winter Leibul nehm, tu das um du scheute. Wenn du willst nicht sein a Gast zwischen alle Teute. Reib die Flügel, sie mir schwer, zu viel Sachen. So die Mamme ungepelzt, dem Fegeleben dem Schwachen. Guck ich treurig mir rein, in mein Mammes Augen. So die Liebschaft niederlost, wenn mir ein Vogel. Oi von der Weg steht der Bäume, steht der Eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum sehnen sich zu fliegen. La 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 la.
Ich hab genommen die Richtung auf Moskau, besser gesagt zwischen Moskau und Leningrad, auf die Seite von Novgorod. Die Städte regier ich sehen, wo es Gicher durchzufahren, weil die Deutschen haben die ganze Zeit bombardiert. Ich bin schon gewesen sehr weit von daheim und gefühlt sich was mehr allein. Niedergessen, niederschlafen, nicht genug selber, weil kein Seif hab ich nicht gehabt und nur sich gewassen in die Teichlach vorbeifahrendig. Kein Seif hab ich sein nachdem nicht gesehen, als 8 Monaten, bis ich bin rein in Armee. Von Novgorod bin ich gekommen in Rubinsk und nachdem in Kostroma und von dann an in Nizhny Novgorod. Als ein weiter Weg machen dich, bin ich sein Gewinn sehr ausgemattert. Ich habe viele nicht gewusst, welchen Tag es ist und wie lange ich bin schon unterwegs. Hab ich beschlossen, sich aufzustellen, da derweil zu bleiben. Den Geld habe ich nicht gehabt, a viel ein Hemd oder unterwegs zum Beiten. Und ich nicht gehabt, ein Dach über den Kopf, wo zu nächtigen. Ich meine, wenn es so geht, ist geworden als schwerer zum Hüten. Hab ich beschlossen, ihm zu verkaufen. Das ist in jener Zeiten gewinn leicht. Als hat man gekannt verkaufen und kaufen. Mit dem Geld, was ich hab gekriegt, hab ich sein gekannt eine gewisse Zeit essen. Weil ihr dürft wissen, es breit ist gewinn sehr teuer. Ich rede nicht von anderen Produkten. Ein Beispiel, ein Zwiebel ist gewinn sehr teuer, weil es man hat nicht genug zum Essen und wenig Vitaminen fliegen die Zähne rausfallen. Das Stickelbrot mit der Zwiebel gewinn ein Luxus. Ich bin da nicht gewinn einer in die Lage. Wir sind da gewinn in die Tausender, Menschen entlaufen von allen Fronten und Menschen sind gelaufen in die Gassen und in die öffentlichen Gebäude. Die örtliche Macht hat geöffnet, wo zum Schlafen. Vor dem Zweck. In einem Tag habe ich da getroffen meinen vakanten Bocher. Er ist nicht gewöhnt kein Telser, nur von Plungian. Ich habe ihn gekannt, weil ich pflege kommen in Plungian. Weil ich hab da gehört, eine Familie Salkonowitz, welche seine gewinnt, unsere Freund. Er ist gewinnt mein Mutter sa Cousin. Sie haben gehad zwei Englisch und ein Mädel. Sie sind alle drei Gymnasisten von der Litwischen Gymnasie. Sehr Eltern sind gewinnt sehr gastliche Menschen. Sie pflegen mir auf einem Wegen Kind. Die Eltern und alle drei Kinder sind geblieben leben. Ein Bruder mit der Schwester leben in Israel und einer lebt noch ein in Plungian und hat dort seine Familie. Dort sind Kinder gemacht, wie sie gewinnt und nicht geblieben. Lassen Sie sich umkehren zu meinen Bekannten, welche ich habe getroffen. Ich habe ihn auch gekannt, weil wir pflegen kommen mit der Masse von Beitar spielen im Fußball gegen Hapoel von Plinian. Er spielt gegen mir. Vom Fach ist er gewesen als Smid. Das ist nicht kein jüdisches Fach. Nur, als er Plinian ist gewesen eine kleine Stadt und viele Pöhrim haben gelebt darum. Ich das gewinn ein goldener Fach, besser gesagt eiserner. Sie haben gemacht Potkewes und besmieden die Pferd und auch verrichten die Räder von den Wegener, welche seinen gewinn Holzerne, aber gewinn bezeugen mit Eisen. Gewinn ist er ein höher und ein starker Jung, mit ein paar Händen wie Panzers, Eschgarbet bei seinem schweren Fach. Gewinn ist er ein paar Jahre älter von mir. Als ich hab ihn getroffen habe, ist das gewesen von mir, wie ich wohl getroffen habe, wie man von meiner eigenen Familie. Er ist auch viele nicht gewesen meiner Kinder. Aber in diesem Fall, als man ist also einsam und man hat nicht mit wem zu reden, ein Wort, ist das zugeschickt von Himmel. Ich meine, als vor ihm ist er gewesen also. Von dann an sind wir weg mit der Sack auf der Plätze, über die Kolchosen. Aber ich weiß nicht, was das ist, Kolchos, will ich euch aufklären. Das ist eine kollektive Wirtschaft, wo alle Einrichtungen und Maschinen gehören zum Kollektiv. Alle arbeiten zusammen auf der Erde, welche gehört zum Kolchos. Ende Jahr kriegt jeder Kolchos nicht bezahlt. Mit den Produkten, welche man nimmt darauf vom Feld. Euch kriegt er ein bisschen Geld. Leben lebt er bei sich in Haus und nicht bei sich. Er hat euch ein kleines Stück gelernt, leben sein Haus für sein Gebrauch. Für was sind wir gegangen in die Kolchosen? Weil in die Kolchosen hat gefehlt Arbeitshand und überhaupt ein Schmied. Weil die Männer sind alle gewesen und mobilisiert in der Armee. Es sind nur geblieben alte Leute und Frauen. In jedem Kolchos eine Schmiederei, aber der Schmied ist gewesen in der Armee. Hat mein Haver geschmied und ich flieg auflösendem Feuer und klapp mit dem großen Hammer in Kavalde. Für unsere Arbeit haben wir gekrogen Essen und wozu nächtigen und noch ein bisschen Geld. Wir haben alles gemacht, Reserven von Brot, sehr schwarze Brot, pflegt sich halten mehr wie zwei Wochen. Also pflegen wir herumgehen von einem Kolchos zum zweiten, bis wir sind gekommen in Kasan.
Ich hab sich verliebt in eine Jünger, das Schöne.